Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Benjamin Lucas, député des Yvelines, coordinateur de Génération. Bonjour.
Bonjour.
Alors, face à la flambée des prix de l'essence, de nombreux Français voient leur pouvoir d'achat se réduire. Certains n'iront pas en vacances, d'autres se restreignent sur l'alimentation. Comment accueillez-vous les mesures ciblées du gouvernement pour faire face à la hausse des prix? Comme la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelez-vous à un blocage des prix de l'énergie?
Oui, on appelle à des mesures qui soient à la hauteur de la situation dramatique que vivent nos compatriotes à chaque passage à la station d'essence. On appelle, plutôt que des mesurettes dont en réalité beaucoup de nos concitoyens ne voient pas la couleur, on appelle à ce que la puissance publique joue pleinement son rôle et elle en a la capacité. Bloquer les prix, ça se fait, ça s'est déjà fait, elle a la capacité de le faire. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a des industries du pétrole, qui se font énormément d'argent, qui profitent de la crise, qui augmente considérablement leur marge, leur super profit. Et bien face à cela, il faut que la puissance publique tape du poing sur la table, fasse respecter nos concitoyens et leur pouvoir d'achat.
Vous qui êtes écologiste, quelles leçons faut-il tirer de ce choc pétrolier? Le Premier ministre travaille à un plan d'électrification pour réduire la dépendance de la France aux hydrocarbures. Est-ce qu'il faut accompagner les Français, par exemple, qui se chauffent au gaz, vers un mode de chauffage plus écologique?
Oui, la leçon quand même de ces crises à répétition, c'est que si on ne planifie pas, si on n'organise pas, ce qui est un chantier colossal, mais la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles, si on n'organise pas la décarbonation de notre économie, si on n'organise pas la rénovation thermique massive de l'ensemble de nos bâtiments, alors à chaque choc, et il y en aura malheureusement d'autres, et celui-ci va sans doute être durable compte tenu de ce qu'est la situation géopolitique, à chaque crise, on a un gouvernement qui est là, les bras ballants, et qui dit « Oh là là, mais qui aurait pu prédire ? Comment se fait-il que nous soyons dans cette situation ?» On est dans cette situation parce que ceux qui nous gouvernent depuis très longtemps maintenant, depuis une décennie pour ce qui est des macronistes, n'ont pas anticipé, n'ont pas prévu. Or, on pouvait prévoir, on pouvait anticiper. Donc évidemment, il faut une révolution écologique, populaire, sociale, animée par la volonté de rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français, qui se déploie totalement et qui ne soit plus soumise aux diktats des lobbies, aux diktats des intérêts du charbon, du pétrole, du gaz, de Monsieur Poutine ou d'autres, qui malheureusement trop souvent ralentissent les choses, alors qu'il y a, je crois, une volonté populaire qu'on aille vite et loin.
Benjamin Lucas, est-ce que vous soutenez la position du président Macron qui ne veut pas engager la France dans une guerre qu'elle n'a pas choisie ?
Le président de la République a raison et doit faire respecter la parole de la France désormais. Il est évident que la guerre décidée par M. Netanyahou et M. Trump est une guerre illégale, une guerre sanguinaire. Des crimes de guerre sont commis. Hein. Le bombardement d'installations civiles, le bombardement de villes de façon massive, comme c'est le cas aujourd'hui, relève des crimes de guerre. M. Netanyahou et M. Trump sont des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité. La France doit faire entendre une voix pour la paix, pour le respect du droit international, et surtout pour la sécurité de tous les peuples du monde, et notamment des peuples qui aujourd'hui sont bombardés, massacrés par le régime états-unien et le régime israélien, qui ont totalement perdu la raison.
Mais le régime iranien, lui aussi, commet des crimes en attaquant des civils.
Bien sûr, aucune complaisance à l'égard du régime iranien, mais ce qui est vrai pour l'Iran et ce qui était vrai pour l'Irak, ce qui était vrai pour la Libye, je pourrais citer une liste longue comme le bras, on n'attaque pas un régime sanguinaire avec des méthodes sanguinaires. Voilà, on n'attaque pas un régime qu'on exècre, et j'exècre ce régime, en massacrant sa population civile. Aujourd'hui, ce sont les Iraniens qui sont doublement victimes. Victimes du régime, du joug du régime sous lequel ils vivent, et victimes de l'offensive américaine et israélienne qui n'a rien à voir avec la libération du peuple iranien, qui a tout à voir avec le pétrole, qui a tout à voir avec les volontés impérialistes de l'un comme de l'autre. Et donc, ce n'est pas une guerre humanitaire, c'est une guerre de destruction, une guerre barbare, une guerre illégale. Elle doit être stoppée le plus rapidement possible.
Benjamin Lucas, les députés ont travaillé sur un projet de loi pour lutter davantage contre les fraudes sociales et fiscales, un texte qui pourrait rapporter 1 milliard d'euros à l'État. Pourquoi vous êtes-vous opposé à ce texte ?
Alors d'abord, vous avez raison, vous avez dit « pourrait rapporter ». On n'en sait rien, le gouvernement a refusé de répondre à nos questions quand on a demandé des estimations, des chiffres précis pour savoir combien d'argent pourrait être récolté. Bon, la réponse s'est fait attendre, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas, premièrement. Deuxièmement, parce que ce texte est totalement déséquilibré. Encore une fois, on en fait un tract contre les allocataires des minima sociaux, contre les bénéficiaires des APL, on stigmatise les plus précaires, ceux qui parfois ont 2, 3, 5, 10 euros de trop perçus et sont traités comme des criminels, et qu'on laisse complètement de côté la question de la fraude fiscale, qui est bien plus massive en termes de volume, qui représente des milliards et des milliards, 80 milliards d'euros par an, qu'on pourrait récupérer et qui pourrait ainsi financer nos services publics, nos solidarités. Donc c'est un texte qui est un texte de stigmatisation des plus précaires, qui ne lutte contre rien du tout, si ce n'est contre les pauvres, plutôt que de s'attaquer à la question de la pauvreté. Il y a aujourd'hui un arsenal législatif qui existe et des mécanismes pour condamner, et c'est normal, les fraudes. Quand il y a fraude, un certain nombre d'aides sociales, elles ne sont pas permises aujourd'hui, elles ne sont pas tolérées, elles ne sont pas légales. Faisons appliquer la loi là où la loi existe et arrêtons de vouloir faire de l'Assemblée nationale un théâtre de haine à l'égard des plus précaires.
Une enquête a été ouverte pour injure publique à caractère raciste après les propos visant le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, tenu fin mars sur CNews. Le préfet de Seine-Saint-Denis a souhaité se constituer partie civile. Samedi, un grand rassemblement antiraciste s'est tenu à Saint-Denis. Une autre manifestation est prévue le 3 mai. Comment analysez-vous la séquence qu'on vient de vivre sur la question du racisme ?
Bon, moi, j'étais à Saint-Denis samedi, j'ai vu un sursaut citoyen, un sursaut populaire, pour dire que ce n'est pas CNews qui va faire la loi dans ce pays. Et ça fait du bien, dans le moment dans lequel on est, de voir qu'il y a une mobilisation forte qui se crée, notamment autour de Bali Bagayoko, mais pas seulement, autour de tous ces élus de la République qui sont injuriés, qui sont diffamés, qui sont stigmatisés par une offensive raciste qui vient pas de nulle part, qui est le produit de l'offensive de Monsieur Bolloré et des médias qu'il contrôle, qui est le produit de la loi immigration, qui est le produit de cette ambiance qui est créée dans la société par tout un tas de gens qui courent après l'extrême droite, et que je regrette qu'il n'y ait pas eu dans cette manifestation de membres du gouvernement venus témoigner de leur solidarité républicaine à l'égard du maire de la plus grande ville d'Île-de-France et à l'égard de ses collègues élus qui sont ainsi injuriés, et à travers eux c'est toute la République qui est injuriée. Donc il faut une grande mobilisation contre le racisme aujourd'hui, et il faut débusquer partout où il se trouve ceux qui propagent la haine raciste et qui, je le rappelle, ne défendent pas une opinion mais commettent un délit.
Vous voyez sur le terrain le racisme progresser par rapport au moment où vous avez commencé à militer ?
Bien sûr, d'abord il suffit de voir les chaînes, notamment CNews, qui sont tolérées dans l'espace public. Moi quand j'ai commencé à militer, vous aviez beaucoup moins de personnes racistes invitées à la télévision. Je rappelle que M. Zemmour a construit sa candidature à la présidentielle sur la base d'une case quotidienne sur une chaîne de télévision, alors qu'il avait déjà été condamné pour incitation à la haine raciale. Tout ça n'aurait pas été possible il y a encore quelques années. Donc on navigue là dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Et puis bon, il y a une progression politique de l'extrême droite qui traduit cette montée du racisme. Vous avez aujourd'hui plus d'une centaine de députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. C'est la période historique dans laquelle nous sommes. Et tout ça accompagne un mouvement mondial. Regardez M. Trump, regardez M. Netanyahou, regardez M. Orban, regardez ce qui se passe à travers le monde et la montée des extrêmes droites. La France n'est pas une île et elle est malheureusement aussi confrontée à cela. Il faut en prendre la mesure.
Quelle peut être la réponse de gauche à l'extrême droite ?
La réponse de la gauche à l'extrême droite, elle est d'abord de tenir bon sur les valeurs. Je constate que malheureusement, c'est sur nos épaules à nous que repose le poids d'une digue à reconstruire. Parce que l'extrême droite, elle a été banalisée, légitimée, elle est aujourd'hui encouragée. C'est ça. Et puis de construire un projet de société qui marque une alternative avec l'extrême droite. Donc ferme sur les valeurs, ferme sur les principes. Je pense notamment aux questions liées à l'immigration. Il faut arrêter de courir après la droite radicalisée et l'extrême droite. Il faut assumer la démarche humaniste qui est la nôtre, le projet humaniste, le projet solidaire, le projet de fraternité qui est le nôtre. Sans avoir honte, sans avoir peur, ça suffit de vouloir épouser les thèses de la droite et de l'extrême droite. Et puis il faut construire un projet de société qui rassemble autour de grandes conquêtes sociales, autour de grandes conquêtes républicaines, pour le droit au repos, pour le droit à la culture, pour des droits sociaux nouveaux, bref, qui montre qu'une alternative heureuse est possible au monde de malheur esquissé par l'extrême droite aujourd'hui.
Benjamin Lucas, le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, propose aux écologistes et aux communistes de se rassembler derrière Jean-Luc Mélenchon pour 2027, avec un accord programmatique et électoral pour les législatives. Vous-même, vous êtes coordinateur de génération avec Ella Kribi-Romdan. Est-ce que c'est une proposition que vous souhaitez étudier, ou bien considérez-vous, comme d'autres, que Jean-Luc Mélenchon ne ferait pas un bon candidat de second tour ?
Moi, je n'ai à gauche aucun adversaire. et encore moins d'ennemis. Et donc, je suis pour discuter de toutes les propositions. Ma conviction, et la proposition que nous mettons sur la table, qui est discutable comme d'autres, c'est qu'il faut reconstruire ce qu'a été le nouveau Front Populaire. C'est-à-dire ce moment où toute la gauche, tous les écologistes, avec un apport considérable de la société civile, se sont rassemblés pour faire barrage à l'extrême droite et pour porter un projet, le projet d'une alternative heureuse au néolibéralisme qui sévit dans ce pays depuis trop longtemps et à la menace du péril fasciste qui nous guette, qui nous menace, et on le voit encore ces derniers temps avec la montée du racisme et des discriminations. Ça, c'est la proposition que nous faisons. Reconstruire le nouveau Front Populaire, rassembler tout le monde et donc discuter avec tout le monde, ne pas mettre d'exclusives, ne pas rejouer le match des gauches dites irréconciliables qui seraient incapables de parler entre elles. Il faut beaucoup de patience, il faut aussi beaucoup de vertu les uns les autres pour ne pas s'abîmer dans des querelles entre nous, mais c'est ce que nous devons au pays, c'est ce que nous devons à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que l'enjeu de 2027, c'est pas simplement de savoir qui va gagner, c'est de savoir est-ce que nous serons capables d'empêcher l'extrême droite de gagner pour, à sa place, construire un projet qui change concrètement la vie de nos compatriotes, parce que si on gagnait sans changer la vie, ce serait l'extrême droite qui gagnait le coup d'après, et si nous sommes incapables de démontrer qu'on peut changer la vie, c'est l'extrême droite qui l'emportera. C'est ça l'enjeu. Et cet enjeu-là, il implique de travailler avec tout le monde, sans exclusive, à gauche et dans l'écologie.
Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas disqualifié par ses récents dérapages.
Écoutez, je préférais que Jean-Luc Mélenchon, parfois, parle un peu moins fort, dise des choses un peu moins brutales. J'ai effectivement ma sensibilité, il a la sienne, mais je vous l'ai dit, moi je me suis astreint une règle, c'est de ne pas avoir d'ennemis et d'adversaires à gauche et de travailler avec tout le monde, parce que c'est ainsi que ce sont les électeurs qui en ont décidé ainsi. Moi je suis démocrate. Il y a, à plusieurs reprises, des millions de Françaises et de Français qui ont fait confiance à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Il faut les respecter, il faut les entendre, il ne faut pas les rejeter comme certains voudraient le faire. Donc moi, mon objectif, c'est de travailler tous ensemble. Les nouveaux Front Populaire, ça a fonctionné parce que vous aviez toute la gauche. Vous aviez des socialistes, des communistes, des écologistes et nos amis insoumis. Et donc dire il y a deux gauches, une gauche insoumise et le reste de la gauche, ce serait abandonner le pouvoir à l'extrême droite et ce serait renoncer à transformer la société. Et même plus grave, ce serait renoncer aussi à entendre la parole de celles et ceux qui vivent dans nos quartiers populaires et qui, pour beaucoup, ont fait confiance ces dernières années à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis élu de Mantes-la-Jolie, je suis élu de Territoire Populaire, je ne méprise pas et je respecte même, au contraire, les électrices et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et donc je respecte Jean-Luc Mélenchon. Il faut arrêter maintenant de se faire la guerre à gauche. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des désaccords, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une appréciation sur la façon dont les choses sont dites et sur un certain nombre de déclarations. On se les dit, on affronte ces épreuves ensemble et on essaye de construire pour l'avenir. C'est ça le plus important et c'est ça qu'attendent de nous ceux qui ont besoin que la gauche l'emporte.
Merci Benjamin Lucas. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines et coordinateur de Génération.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.